D'ailleurs, je fais ça systématiquement quand je me trouve devant un auditoire. Je commence par à chacun de vous la grâce et la paix, pas la grâce et la paix, à chacun de vous paix et bénédiction dans le nom de Jésus. Et commencer. Alors, si on est dans une école chrétienne, évidemment, on peut le faire. Si on est dans l'école de la République, on ne va pas. Bon, eh bien, on va trouver une formule qui soit au plus près d'une bénédiction. Bon, ben, écoutez, les enfants, les jeunes, nous allons passer une bonne journée. Je suis content de vous retrouver, même si on souffre un peu. Bon, mais avoir quelque chose qui est de l'ordre de la bénédiction. Et puis, ça, c'est dans les mots. Et aussi avoir une attitude de bénédiction tout au long de notre pédagogie. Alors, évidemment, ça veut dire la bénédiction, c'est le contraire de la malédiction. Je ne vais pas vous faire la morale pour vous dire qu'il ne faut pas de paroles dans le style assassine, qu'on entend souvent. Bécassine, tu es, Bécassine, tu resteras. Toi, tu t'es regardé dans une glace, tu ne feras rien dans ta vie. Bon, c'est pas besoin qu'on dise ça. Mais dans tous nos propos, être bénissant. Et ça garde un climat assaini dans la classe. C'est très important. Alors, je continue. Dans Matthieu, il y a un 14, verset 19. On voit cet événement où la foule a suivi Jésus. Ils sont là depuis 3 jours. Et bon, ils n'ont plus rien à manger. Qu'est-ce qu'on va faire pour les nourrir? Disent les disciples. Et Jésus va opérer le miracle de la multiplication des pains. Et il nous est dit, il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons. Puis la suite, on la connaît. Alors là, moi, en lisant ça, j'ai imaginé la scène. Jésus n'a réalisé le miracle qu'une fois que la foule était assise, qu'elle était stabilisée. Et je pense qu'il est très important, je ne sais pas si vous allez me contredire, la façon dont on amorce la classe le matin en arrivant. Pour moi, c'est un peu comme au foot. Il ne faut pas laisser à l'équipe adverse le temps de s'organiser. Si on rate l'entrée en classe, ah, ben c'est vraiment difficile pour rattraper la sauce. On y arrive, mais donc il est bon vraiment d'avoir, j'allais dire, une espèce de rituel, chacun selon ses habitudes, pour dire ceci. Maintenant, la classe commence. Ici, je pense à un élément biblique quand, par exemple, Dieu dit à son serviteur Moïse d'observer le jour du Shabbat et il lui dit, vous sanctifierez ce jour. Sanctifier, ça veut dire mettre à part. Donc, par exemple, dans le peuple juif, il y a un petit rituel qui fait que le soir du Shabbat, on allume des bougies, on partage du pain, du vin. C'est un rituel pour dire, maintenant, on sort du temps profane et on rentre dans le temps sacré. Donc, que les enfants sachent, jusqu'à présent, c'était la non-classe, maintenant la classe commence. Et alors, j'ai une anecdote, il y a 3, 4 ans ou 5 ans, nous étions dans une classe, dans un établissement chrétien, et moi j'étais au fond de la classe, et puis la collègue m'avait dit, ben, regarde un peu, bon, dis-moi un peu. Donne-moi quelques conseils. La classe avait commencé dans un flou total. Les élèves étaient rentrés, les uns debout, les autres assis, et elle a commencé à distribuer des feuilles individuellement, à parler individuellement à l'un, à l'autre. Quand elle a commencé de vouloir enseigner, il y avait un brouhaha, on ne savait pas où on en était. Alors, après ça, je lui ai posé une question sur la façon de se dérouler le culte le dimanche dans l'église où elle allait. Je lui ai dit, comment commence le culte dans ton église? Alors elle m'a dit, ben, les gens arrivent, se papotent, parlent, se saluent, quelques-uns vont s'asseoir, d'autres encore restent debout. Pendant ce temps, sur l'estrade, le groupe des musiciens se met à jouer. Et puis, en entendant les cantiques, ben, on se dit, c'est le moment d'aller s'asseoir, on s'assied. Mais finalement, on ne sait pas à quel moment commence le culte. Alors, ben, j'ai dit, voilà, ben, tu fais pareil dans ta classe. Donc, j'allais dire, le Seigneur aime les distinctions. Il donne un temps pour chaque chose pour en son temps. Donc, c'est très important, à mon avis, ça, pour la suite, de bien gérer la façon dont la classe est amorcée. Je continue. Alors, dans Matthieu 15, verset 29, il est dit, « Jésus quitta cet endroit et vint sur les bords du lac de Galilée. Il monta sur la montagne et s'assit. Une grande foule s'approcha de lui. » Je me suis dit quand même, monter sur la montagne, monter sur la colline, c'est prendre un chemin, c'est pas toujours facile. Et cette foule qui suit Jésus, ça veut dire que vraiment la foule est captée par ce Jésus. Et là, je pense que c'est tout l'art et la manière de capter l'attention des élèves. Il y a Jésus savait capter l'attention des foules. Alors, je ne dis absolument pas que Jésus était un manipulateur. Moi, j'ai horreur des orateurs qui sont des manipulateurs. Mais malgré tout, il y a une façon de se présenter à la classe, de capter l'attention. Au théâtre, on dit qu'un acteur qui est sur scène, il doit passer la rampe, la ligne des lumières, on doit atteindre le public, on doit se projeter sur l'assistance, on doit aller jusqu'au public. Et quand on fait classe, eh bien, il faut aller jusqu'aux élèves, il faut vraiment capter l'attention. Si on reste dans une espèce de no man's land psychologique, on met un no man's land entre nous, l'enseignant, et les élèves, une espèce de flou, on ne va pas capter l'attention. Il faut vraiment... Alors ça, il n'y a pas de méthode. Chacun peut trouver la sienne. Je ne sais pas si c'est une personnalité à développer. Mais en tous les cas, si on manque de cela, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, le demander au Seigneur. Hein? Le demander au Seigneur. Puisque lui savait bien le faire, il nous le communiquera par son Saint-Esprit. Capter l'attention des élèves. Moi, je pense qu'il y a des trucs aussi. Hein. Il faut savoir se déplacer. Bon, moi, je parle pour les enseignants du primaire. Là, quand on a surveillé des cours de récréation assez grandes avec 11 classes, ben, de temps en temps, dans la cour, il ne fallait pas rester planté à un endroit pour surveiller. De temps en temps, il fallait marcher, aller à un endroit de la cour, juste se faire voir, dire « je suis là, attention, voilà, on est sur le terrain ». Alors, je vais continuer. C'est des petits trucs que je donne là. Hein. Je ne fais pas de la grande pédagogie, hein, je ne fais pas de la philosophie pédagogique. D'ailleurs, je serais bien incapable. Dans Matthieu 6, verset 10, alors c'est la prière, le Notre Père. Les disciples demandent à Jésus, apprends-nous à prier. Et Jésus leur dit, une prière qui existait déjà, j'allais dire en pièces détachées dans le Premier Testament, mais la prière, la voici, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je ne sais pas si vous remarquez, mais ce sont deux choses identiques, disent de deux façons différentes. Quand le règne de Dieu, le règne se fera dans sa plénitude, eh bien, effectivement, sa volonté sera faite sur la terre comme au ciel. Donc, je veux dire par là que là, Jésus a utilisé une répétition. Et la Bible est farcie de répétitions. Ô mon peuple, écoute mes instructions, conformez-vous à mes ordonnances. C'est exactement pareil. Je gravirai les pentes de la colline, je monterai au sommet de la montagne. On a ça, c'est double, on a un nombre incalculable de fois. Donc la répétition, la répétition, la répétition. Donc, ne pas hésiter dans notre enseignement à répéter. Alors, des fois, on est obligé de répéter de la même façon, comme dans le psaume « Ta miséricorde durera toujours, car ta miséricorde durera toujours », mais surtout dire la même chose, mais de plusieurs façons différentes. Ne pas hésiter. Ben, pourquoi? Bon, on ne va pas épiloguer là-dessus, comprenez bien. Dans Marc chapitre 4, verset 1. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'est assemblée auprès de lui. Il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Donc Jésus est sur les bords du lac de Galilée. Il y a beaucoup de monde. Il va être entendu de qui? Il va être entendu de ceux qui sont devant lui, puis ceux qui sont en retrait ne vont pas pouvoir l'entendre, puis il est pressé par la foule. Alors que fait-il? Il monte dans cette barque. Aujourd'hui, il utiliserait une sono. Mais à l'époque, il n'y avait pas de sono. Je ne veux pas dire par là que dans nos classes, il faille utiliser une sono, sauf dans des amphis, bien sûr. Voilà. Sauf si l'enseignant a des problèmes de voix, peut-être. Mais Jésus a soigné sa diction. Et ça aussi, c'est important. Alors moi, je regrette que, à notre époque, quand on était à l'école normale d'instituteurs, on n'a jamais eu de cours sur la diction. Même, j'entends de dire que dans des facs, dans des écoles de théologie, des instituts bibliques, ceux qui en forment pour être pasteur, paraît-il, on ne leur donne pas des cours de diction. Et ça, c'est bien dommage, parce que la voix est un élément, est un outil indispensable, et il faut, je veux dire, travailler sa diction. Pourquoi? Pour être bien entendu, tout simplement. Alors, je me rappelle avec mon épouse, nous étions allés voir un enseignant, c'était un prof, un enseignant, un institut chrétien. Et on était au fond de la classe pour observer l'attitude d'un élève autiste qui avait des difficultés. Bon. Quand on a fait le débriefing, le prof m'a dit « Est-ce que vous avez remarqué qu'il passe son temps à maugréer ?» Eh bien, j'ai dit « Oui, on voit que ce jeune, pendant tout le cours, il a l'air de râler. Qu'est-ce qu'il a ?» Il m'a dit « Je ne comprends pas. » Alors, je suis allé au tableau, j'ai pris la craie. Si, ça va rejoindre l'addiction. Et j'ai écrit. Et à côté de ce que lui avait écrit, je dis maintenant, va au fond de la classe, va lire. Quand il est allé au fond, il a vu la différence entre ce qu'il avait écrit, c'était mou, c'était fluide, et ce que moi j'avais écrit, j'avais pas appuyé comme un fou, j'avais juste fait la pression normale. Et bien, tout simplement, cet élève maugréé, parce qu'on n'arrivait pas à voir ce que le prof avait écrit. Alors ça, c'est de l'ordre de la vision, mais pour l'audition, c'est pareil. Il faut se faire entendre. Voilà, c'est des trucs physiques, d'ordre physique, mais il faut veiller aussi à cela. Et puis aussi savoir moduler sa diction. Si on parle à un petit groupe ou à un élève individuellement, ou si on parle à l'ensemble de la classe, on ne va pas parler de la même façon. Moi, je réalise que je vous parle à vous individuellement, mais je suis tellement habitué à parler devant une assemblée que je parle comme si j'avais une assemblée. Il faut que moi aussi, je m'adapte. Alors, dans Luc chapitre 21, verset 28, c'est le grand discours sur l'eschatologie prononcé par Jésus. Et il explique que avant son retour en gloire, le monde va passer par des temps de turbulence très 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 particuliers. Je ne vous en fais pas le tableau, nous l'avons peut-être sous les yeux. Et il conclut en leur disant: quand vous verrez ces choses, relevez la tête, votre délivrance approche. Je veux retenir de ça l'idée que Jésus nous appelle à non pas à faire l'autruche par rapport aux turbulences du monde dans lequel que l'on peut constater. Il ne s'agit pas de fermer les yeux, mais il s'agit d'avoir un regard qui ne stagne pas là-dedans, qui ne se fixe pas là, mais un regard qui traverse les turbulences et qui voit plus loin les perspectives glorieuses de sa venue en gloire. Et donc, nous, enseignants, nous avons devant nous des élèves, bien sûr, nos yeux voient des élèves, mais il est bon que, tout en voyant l'élève avec les difficultés qu'il a, qu'il peut avoir, nous voyons au-delà l'enfant. L'enfant, je veux dire par là, l'adulte en devenir. Voilà. Ne pas nier ce qu'il y a à faire, les progressions à suivre, mais aller plus loin, voir l'enfant devenir. L'adulte en devenir. Avoir un regard d'espérance. Parce que sinon, si on reste des fois focalisé sur les points faibles d'un enfant, on va être peut-être déçu, ou je ne sais pas, mais enfin, ça sera négatif. Il faut voir plus loin. Et là, l'âge que nous avons fait que nous avons rencontré quand même un certain nombre de nos anciens élèves. Alors, bien sûr, alors on se rencontre hein, des jeunes qui ont 40 ans. Et ben alors, qu'est-ce que tu deviens? Bon, quel âge as-tu? Ah, voilà. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Eh bien, je fais ceci, je fais cela. Et on voit des gamins, ils étaient faibles, certains, pas tous. Et puis on voit que finalement, certains se sont vraiment très bien débrouillés. Hein. Et certains gagnent mieux leur vie que nous, ont plus de diplômes que nous. Alors qu'au départ, voilà. Alors donc, moi je vous dis ça pour vraiment vous encourager. Luc 15, 4. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il ait retrouvé. Bon, aller chercher la brebis perdue. Alors, ça, là, Jésus, il ne faut pas suivre son conseil, il ne faut pas laisser toute la classe pour ne s'occuper que d'un. Sinon, ça n'irait pas. Mais il faut, tout en gardant une vue sur l'ensemble, ne pas perdre de vue personne, savoir avoir une parole personnalisée, un regard personnalisé pour chaque enfant. Ce regard, je pense que le Seigneur peut nous le donner. On a devant nous, non pas des individus, mais des personnes. La différence que je fais, c'est que l'individu, c'est un électron libre. C'est quelqu'un de détaché. La personne, c'est un être, mais qui est en communion avec la collectivité, avec l'ensemble. Donc, nous avons des personnes. Et il est bon que notre regard se porte aussi sur chaque personne. Donc, ça implique d'avoir une pédagogie qui n'est pas exclusivement élitiste. Que l'on fasse marcher ceux qui vont de l'avant, oui, mais ne pas s'intéresser aussi à ceux qui traînent un peu la patte. Alors, un passage que j'aime beaucoup, c'est Jean chapitre 8, versets 1 à 11. C'est au sujet de la femme adultère. Vous savez, les chefs religieux prennent une femme qui a commis l'adultère et en cohorte, ils l'amènent à Jésus. Par parenthèse, ils oublient d'amener avec eux le mec, mais ça, c'est un comportement assez macho de leur part. Et on voit vraiment que ces hommes font bloc pour amener cette femme. Ah, ils se délectent d'être ensemble pour l'amener à Jésus. Et ce qui me plaît là-dedans, c'est que Jésus coupe cet élan. Au bout d'un moment, ce groupe qui s'est constitué, eh bien, est disloqué Parce que la parole nous dit que chacun s'en va de son côté. Jésus a une parole que l'on connaît, mais le groupe est disloqué. Et ça, ça me dit que nous devons veiller. Alors, je parle surtout aux classes du primaire, parce qu'en collège, c'est beaucoup plus difficile. Nous devons veiller à ce que aucun élève ne soit l'objet d'un harcèlement de la part de ses compagnons de classe. Alors, bien sûr que tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, dans le secondaire, le lycée, ça, alors vraiment, c'est difficile. Mais dans une classe de primaire, quand on a les élèves toute la journée sous les yeux, quand on regarde une récréation, si on est un peu attentif, on va sentir quel est l'élève qui risque d'être pris pour tête de turc. Et ça, il ne faut absolument pas le tolérer. Alors, sanctionner sur le coup, mais on peut aussi travailler en amont la notion de respect de l'autre. Voilà. Et ne tolérer dans la classe aucune moquerie. Bon, c'est vrai que si, des fois, un élève peut en faire rire les autres si c'est de... Bon. Mais pas du tout de moquerie, pas du tout la moindre dérision. Ça, on doit être vraiment inflexible là-dessus. Jean 10, 14. Jésus qui dit, je suis le bon berger, je connais mes brebis, elles me connaissent. Le bon berger. Alors, le bon berger, c'est celui qui a l'autorité sur les brebis et qui assure leur sécurité. Ce que nous avons constaté avec mon épouse, c'est que pour beaucoup d'enseignants, alors, je ne parle pas pour vous, évidemment, mais pour beaucoup, un peu de votre génération, malheureusement, on confond autorité et autoritarisme et on confond être strict avec un manque d'amour. Et ça c'est quand même embêtant. Il ne s'agit pas du tout de faire preuve d'autoritarisme, mais il faut exercer une autorité, hein, une autorité, j'allais dire, selon le Seigneur. Et ça, ce n'est pas pour se pavaner, c'est une notion de sécurité. Je donne un exemple précis. J'étais avec mes élèves en classe verte dans le sud de la France et un matin, nous étions partis à travers un paysage un peu de savane. Nous étions partis voir explorer un peu la nature. Mes élèves, bien sûr, ne marchaient pas en rang. Ils étaient, bon. Mais à un moment donné, ils ont vu à quelques, je sais pas, 100 mètres de là, un piquet avec un fanion. Ils ont dit, oh, on va aller voir. Et moi, je leur dis, non, non, hop, tout le monde derrière moi, c'est moi qui marche le premier. Et j'ai vraiment fait acte d'autorité parce qu'ils étaient tout brûlants d'aller voir ce qu'il y avait avec ce piquet, ce fanion. Et bien m'en a pris parce que le piquet indiquait un aven, vous savez, c'est ces trous qu'il y a dans la. Voilà, dans le rocher, un aven qui faisait peut-être 3 mètres de diamètre. Et je me suis dit, ben, le premier qui serait arrivé se serait arrêté, mais le suivant l'aurait poussé pour voir. J'aurais eu 4, peut-être 3, 4 ou 5 gamins dans l'aven. Donc je me suis dit, ben, voilà, j'ai bien fait d'exercer l'autorité, mais si m'ont écouté à ce moment-là, c'est parce que tout le reste de l'année, j'ai su exercer l'autorité. Alors, je sais bien que quand je dis ça, je soulève un problème très difficile et je suis bien conscient, mais très conscient, que pour vous, actuellement, ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas chose facile, je suis... Voilà. J'arrive vers la fin. Jean 2, chapitre 15. C'est Jésus qui rentre dans le temple. Il ne rentre pas dans le temple lui-même, parce que seuls les sacrificateurs y entraient, mais il rentre, on va dire, dans le complexe du temple, là où il y avait les changeurs de monnaie. Voilà. Et on connaît l'histoire. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Jésus a piqué une colère. Alors, je sais que bien que vous, enseignants, vous ne piquez jamais de colère, mais moi, à l'époque, ça nous arrivait de piquer des fois des colères. Et là, je remarque que Jésus s'est bien mis en colère. D'abord, de se mettre en colère des fois, que le soleil ne se couche pas sur la colère. Bon. Et là, je remarque que Jésus, avant de d'être intervenu auprès de tous ces vendeurs, il a fait un fouet avec des cordes. Je suppose qu'il faut un certain temps pour faire un fouet avec des cordes. Et une fois qu'il a fait le fouet, il a explosé. Je veux dire par là qu'à certains moments dans la classe, on peut se mettre en colère. Et je dirais, certaines fois, c'est nécessaire de marquer vraiment la différence. Mais si on se met en colère, faisons tout pour que ce soit une colère sous contrôle, que ce soit une colère maîtrisée. Voilà. Pas une colère avec des mots qui dépassent les convenances, pas avec des mots qui blesseraient les élèves dans leur personne, mais des mots qui fustigent certains comportements, pourquoi pas. Mais, alors ça, vous me direz, c'est un peu difficile. Avant de se mettre en colère, s'arrêter quelques secondes pour que la colère soit vraiment contrôlée. Peut-être que je vous choque en disant ça. Je parle comme un enseignant d'une autre époque, c'est possible. Alors, un passage que j'aime beaucoup. Jean chapitre 9, verset 6. On amène un sourd à Jésus. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. On le pria. Alors, nous, ça nous amène un enfant. On a dans la classe un enfant qui est sourd, qui a la difficulté à parler. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons l'envoyer chez l'orthophoniste. Il a difficulté à parler, on va lui faire vérifier les oreilles, c'est ce qu'il faut faire. Par parenthèse, quand nous avons des enfants distraits dans la classe et qui ont du mal à se concentrer, c'est peut-être pour des raisons psychologiques, c'est peut-être tout bêtement qu'ils ont un problème d'oreille ou un problème de vue. Il faut commencer par là. Bon, je ferme la parenthèse. Mais alors on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Bon, n'allez pas faire ça, hein. Mais je suppose que même à l'époque, ce ne sont pas des choses que l'on pratiquait, ça. Et Jésus, là, se montre non conformiste. Et il me semble que l'enseignant doit savoir se montrer dans sa pédagogie non conformiste à certains moments. À la fois de la rigueur, être strict, savoir bien donner des repères, être structuré, mais en même temps être non conformiste. Alors chacun a sa manière d'être non conformiste, mais je pense qu'il faut vraiment être non conformiste. Bah écoutez, les amis, moi je vais m'arrêter là. Je ne sais pas le temps qui m'a été imparti. Johan, est-ce que j'ai dépassé le temps ou quoi? J'ai abusé?
Non, ça a l'air d'être bien.
Bon, bah écoute, je vais m'arrêter là pour ces simples considérations. Voilà. Ah ben oui, mais après, moi, ce n'est pas moi qui préside le débat, c'est Carole.
Alors, ce n'était pas moi qui avais forcément annulé le débat, mais là, on a eu du coup un temps de partage. Merci, du coup, Robert, pour ce que tu as apporté. Est-ce que, du coup, il y aurait des questions par rapport à ce que Robert a partagé? Est-ce que vous voulez lui poser des questions, des remarques? Libre à vous de vous exprimer, de lui poser des questions.
Vous pouvez me dire si ce que j'ai dit, c'est complètement décalé, parce que nous sommes bien conscients que je parle depuis une époque que les moins de 20 ans n'ont pas pu connaître. Voilà, pas de problème. Hein. N'hésitez pas à me dire, mais non, ça, c'est, pour moi, c'est plus valable du tout. Ça n'a jamais été valable. Hein.
Ce que je trouve très intéressant, c'est que tous les conseils là qui sont donnés, ils pourraient être donnés sans mettre Jésus dedans. Et ce qui est génial, c'est que bah, dans la Bible, on retrouve vraiment des conseils fondamentaux pour notre pratique. Et voilà, à ceux qui voudraient dire que la Bible est un livre très poussiéreux et très ancien. Ben, on voit encore une fois à quel point un certain nombre d'enseignements, enfin tous, sont fondamentaux et particulièrement dans notre pratique d'enseignant et d'encadrant de jeunes au quotidien.
Oui.
Sauf peut-être pour prier quand même. Ça risque d'être compliqué sans parler de Jésus.
Oui.
De prier.
Alors moi, je pensais à prier quand on parlait de oui pour une classe. Alors moi, en tant que CPE, prier pour les 600, il va falloir que je fasse un planning, mais ça me paraît
Oui.
important quand même.
J'ai bien précisé
Oui,
que pour
mais
le
je
primaire,
blaguais.
c'est déjà plus facile, hein. Bien sûr, on fait ce qu'on peut. Mais là, je n'ai pas dit prier en classe, là, hein. J'ai dit prier à la maison.
Si c'est
Voilà.
l'élève.
Ah oui, ben, si ça élève, voilà. Ben, toujours peut prier, Seigneur, fais-moi cibler. Le Seigneur, c'est tout ça, hein. Puis il y a la prière intérieure aussi en classe, hein. Ça, je pense que vous l'avez tous pratiqué, hein, à des moments donnés. Après, intérieurement, Seigneur, viens à mon secours. Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation où Seigneur, aide-moi à voir ce qu'il y a à dire à cet enfant, comment je peux le toucher. Voilà, il y a la prière silencieuse, le Seigneur l'entend aussi.
Mais moi, ça me rappelle que Margherita est pas là aujourd'hui, mais Margherita, il y a, je pense, lors d'une journée, il y a 2 ou 3 ans, il y avait justement un intervenant qui disait, ou une intervenante qui disait que elle priait pour ses élèves, et ça a été une révélation pour elle, parce qu'elle n'avait jamais fait. Euh, et,
Ah.
et, et elle s'est dit, mais c'est dingue, comme j'ai jamais pensé. Et je pense qu'en fait, c'est un peu. C'est un petit formatage de l'école de la République, où finalement on cloisonne. Et alors qu'en fait, rien n'empêche un enseignant chrétien de prier pour ses élèves. Mais disons, elle n'y avait jamais pensé. Et
Oui,
ça a
c'est
été une révélation. Et elle a dit, c'est quand même bête d'arriver en toute fin de carrière et de savoir ça. Du coup, je trouve que c'est vraiment bien de le dire, qu'en fait, on peut prier individuellement pour chaque élève. Et ça peut être pour tous les corps de métier, donc c'est bien. Mais
Oui.
n'empêche que voilà, on n'y pense pas forcément.
Ben
Alors,
oui.
bon, il y en a qui savent que je m'occupais d'enfants en difficulté,
Porteur de
en grosse
handicap.
difficulté, handicap, trouble du comportement. Et moi, il m'est arrivé d'avoir un enfant en crise par terre et de prier pour lui. Pas à haute voix, bien sûr, dans l'école de la République, ça ne se fait pas, mais j'ai vu l'efficacité de la prière. Alors, il n'est pas sorti de son handicap, mais il est sorti de sa crise.
Voilà. Maintenant, ce n'est pas la formule magique, hein, non plus. Hein, voilà. Mais on peut prier aussi ben, avec 600 enfants devant soi. Bon. Mais prier pour qu'il y ait une sorte une communion entre les enfants qu'on va avoir. Et soi. Hein? Bon, de même qu'on peut prier, j'ai parlé des élèves, mais des fois, prier pour les collègues aussi. Prier pour qu'on soit vraiment en communion avec les collègues, avec le directeur, la directrice. Voilà.
Alors, ça va un peu ce que je vais dire avec le questionnaire qu'avait fait Carole, mais moi, je vois que sans forcément parler de ma foi, il y a des collègues qui disaient un représentant qui représentait des puzzles sur les sorcières, des livres sur les sorcières, il dit, ah non, dans sa classe, c'est pas peine d'y aller, elle les prendra pas. Voilà. Donc, sans que j'ai eu besoin de dire quoi que ce soit. Les collègues discernent.
Ah oui, alors une autre chose importante, quand j'ai parlé de bénédiction, être bénissant dans la classe, évidemment, je ne l'ai pas retrouvé dans les évangiles, mais pourtant, dans toute la Bible, c'est là. En début d'année, lorsque j'avais la réunion des parents d'élèves, dans les 15 jours de la rentrée, là, on expliquait un peu ce qu'on allait faire et tout, à un moment donné, vers la fin, je disais aux parents, voilà, sachez qu'il y a un thème que je ne vais pas aborder avec mes élèves, alors c'était des enfants de 5 ans, de maternelle, un thème que je ne vais pas aborder et contre lequel j'ai mis en garde mes propres enfants au même titre que la drogue, l'alcool, les filles, les bagnoles et tout ce qu'on veut, c'est tout le thème qui tourne autour des sorciers, de la magie, de tout ça. Alors j'ai dit, je ne peux pas expliquer dans le cadre de l'école, je pourrais en parler longuement, mais sachez que moi je suis ici pour œuvrer à l'épanouissement des enfants et je ne vais pas aborder des thèmes qui, je sais, ne sont pas bons pour l'épanouissement de la personne humaine. Et j'étais très strict et je peux dire, il y avait quelque part la bénédiction dans la classe. Si un gamin m'a amené un bouquin de sorcière, j'étais vraiment très, très, très strict là-dessus. Je dis, bon, écoute, on va le poser là, ce soir tu le reprendras. Voilà, je ne le prendais pas. Mais j'ai dit, non, voilà. Et bon, ça, ce n'est pas bénir, c'est peut-être ôter la malédiction. Là, c'est une forme de bénédiction aussi, de faire ça. Je ne sais pas. Enfin, du moins, c'est ce que je faisais.
Par rapport à la bénédiction, je me souviens, alors je crois que c'était il y a 2 ans à la journée réseau enseignement, il y avait un psychologue aussi qui était là, qui était intervenu, et pour pouvoir mieux gérer en fait les élèves qui sont difficiles en classe, le conseil qu'il nous avait donné, c'était de prendre en fait personnellement cet élève en début de cours par exemple, et de lui dire en fait, de lui fixer quelques petits objectifs à atteindre, juste reste assis sur ta chaise, des trucs très simples, selon le degré de difficulté et la problématique de l'élève, mais de lui fixer des petits objectifs et à la fin de l'heure, de lui dire aussi, même si ça n'a pas été forcément bien toute la séance, de vraiment souligner ce qu'il a bien fait et d'autres points à améliorer, mais vraiment pas lui dire juste mais c'est n'importe quoi ce que tu as fait ou juste mettre des croix ou etc. ou une heure de colle, mais lui montrer aussi que voilà, il a fait des petits progrès par rapport au début de séance et de souligner ça. Ça permet aux élèves aussi de prendre conscience qu'on n'est pas là juste pour entre guillemets punir ou dire ce qui n'était pas bien, mais de les bénir en leur disant il y a du positif en toi quand même. Mais après voilà, il y a encore une marge de progression à faire.
Il y a un point que j'ai oublié sur la sécurité. Moi, en début de classe, j'expliquais aux élèves en termes clairs que, par exemple, s'ils faisaient les imbéciles, allaient se taper dessus, crier, enfin tout. J'allais faire le métier de gendarme pour lequel je n'étais pas payé, mais je saurais le faire. Par contre, je leur disais, si en travaillant, en faisant des exercices, vous vous trompez, mon métier, c'est d'expliquer. Je ne gronde pas si vous vous trompez, à condition, bien sûr, si on fait n'importe quoi exprès, bien sûr. Mais si vous vous trompez, ne vous inquiétez pas, vous venez me le dire, je le vois, et je vous explique. Parce que je dis, mon métier, c'est d'expliquer aux enfants. Enfin, voilà, j'avais un langage pour enfants de maternelle, bien sûr. Mais les enfants savaient dans quel registre ils étaient. Voilà, que si... j'ai levé la voix, c'était pour des raisons de discipline, et je n'allais jamais fustiger un élève parce qu'il me donnait une réponse erronée. Voilà, j'ai dit, tu t'es trompé, non, c'est pas ça, j'explique. Et ça, je pense que c'était très important, ça allait sécuriser ça. Voilà.
Oui, je suis vraiment... toujours ébahie, un peu comme disait Lydie, par le côté tellement moderne et intemporel aussi des enseignements de Jésus et puis de ce que Robert nous a dit aussi ce matin. Et même si on a une petite différence de génération, moi, c'est des choses qu'on retrouve vraiment au quotidien dans notre enseignement et qui sont tellement d'actualité encore. Et l'année dernière, l'après-midi, on avait eu une petite formation sur les neurosciences. Et j'ai eu l'occasion cet hiver d'avoir une formation un peu plus approfondie avec avec des professeurs de l'éducation nationale et des spécialistes. Et finalement, je me rends compte aussi à quel point tout ce qui a été dit et tout ce qu'on trouve dans la Bible au travers de Jésus colle aussi avec les avancées actuelles des neurosciences. Et finalement, comment... Jésus était vraiment un excellent enseignant et connaissait excessivement bien le fonctionnement du cerveau humain parce que tout correspond à la question de la sécurité des enfants, le statut de l'erreur, le fait qu'on soit là pour apprendre et pour aider les élèves à apprendre et qu'on n'est pas là pour les stigmatiser. J'ai beaucoup apprécié aussi tout le passage sur la brebis perdue. Et quand vous disiez que on n'était pas là pour avoir une pédagogie élitiste, et je trouve que parfois, par rapport aux collègues, c'est aussi sur ça qu'on peut faire une différence. Alors moi, je suis dans un établissement qui est un peu particulier parce que c'est un établissement français de l'étranger. Je ne suis pas très loin, je suis au Luxembourg, mais on est quand même sur un public qui est un peu différent du public qu'on peut peut-être avoir à d'autres endroits. Et j'ai beaucoup de collègues qui répètent assez régulièrement, mais par rapport à il y a 5-6 ans, le niveau il a baissé, on n'a plus les élèves qu'on avait avant, on devrait avoir des très bons élèves, et puis leurs parents ils sont banquiers, et finalement ils ne sont pas terribles. Et on peut avoir cette tendance à oublier qu'on n'est pas là pour les bons élèves, mais on est là aussi pour aider ceux qui sont en difficulté et pour se soucier de chacun avec son niveau. Et ça m'a fait beaucoup de bien de le réentendre aussi ce matin.
Et je pense aussi que beaucoup d'enseignants mettent leur honneur dans cet élitisme-là. Je pense que c'est pas placer son honneur, c'est une mauvaise conception de l'honneur, à mon avis. Voilà, c'est un peu d'orgueil, c'est-à-dire j'ai une classe de super, j'ai une classe de super, tant mieux, c'est que le hasard, entre guillemets, tu te trouves avec des élèves super, si c'était des élèves moins super, qu'est-ce que tu ferais? Voilà, il ne faut pas placer son honneur là-dedans, à mon avis. On peut finir sa carrière la tête haute sans je sais pas comment dire ça, Clinet, de moi à dire.
Je sais pas ce que tu veux dire.
Voilà, vous me comprenez, je veux dire. J'aime bien le psaume 131. Seigneur, je ne me recherche pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Hors de ça, j'ai l'âme sereine et tranquille. Voilà, il faut avoir des ambitions pour les élèves, bien sûr, mais le faire dans l'humilité.
Moi, je suis enseignante remplaçante et parfois, quand je prends des classes, on me prévient sur certains élèves difficiles, mais même plus que difficiles, on me dit des choses sur eux qui ne sont justement pas du tout bénissantes. Et je me dis, mais il faut vraiment faire attention à ça, à juger avant même que je les ai vus. On me dit des choses qui peuvent être assez surprenantes, un peu choquantes. Donc, j'essaye vraiment dans ces cas-là de me dire, mais je veux, même en particulier pour ces élèves, les bénir et ne pas les mettre dans une posture. Et de manière plus large, j'avais fait un long remplacement en maternelle et on m'avait dit, ça, c'est un peu une classe maudite parce que chaque année, l'enseignante est malade et il y a toujours des soucis. Donc, j'avais vraiment prié pour cette classe en me disant, mais non, je ne veux pas qu'on appelle cette classe maudite. Et j'avais passé une super année avec ces élèves de maternelle. En priant de bénir cette classe et ces élèves qui sont là et qui, cette classe n'est pas maudite. Ça avait été un peu particulier. Et une dernière chose, je voulais demander si c'était possible d'approfondir un peu la question de la non-conformité. Un exemple aujourd'hui, qu'est-ce que ça pourrait être parce que je peux imaginer des choses, mais je ne sais pas exactement ce que vous entendiez par là, Robert.
Quel exemple on peut donner
c'est la non-conformité par, vas-y, par rapport à...
je peux en donner un pour une classe de primaire, c'est-à-dire que quand on sent, on a un programme à faire dans la journée, on a tel cours à donner dans la journée, mais quand on sent que la classe en face ne répond pas, mais moi je n'hésitais pas à ouvrir ma porte, à sortir avec les élèves, à les balader, quitte à refaire la leçon prévue 2 jours plus tard.
Ah oui, je vois, oui.
Voilà.
Je vois
très bien. Puis aussi, quelquefois, aborder des notions de façon un peu différente de ce qui est classique. Ben, j'ai du mal à expliquer ça, mais...
Ouais, non, je vois très bien. Et justement, moi, je me suis dit, en tant que remplaçante, c'est pas moi qui suis responsable. Parce que maintenant, je fais cette année des remplacements courts. Donc, je fais souvent maximum 1 semaine. Et en fait, c'est pas moi, du coup, qui suis responsable de toutes les progressions de leur année, de tous les apprentissages. Donc, j'en profite pour faire des choses qui peuvent être parfois un peu originales, on va dire, et qui ne vont pas forcément avoir dans le reste de l'année. Et donc, j'étais en colocation avec une amie qui était sourde. Et donc, j'ai fait un peu d'initiation à la langue des signes, par exemple, dans des classes ou comme ça. Donc, je vois maintenant ce que vous dites par la non-conformité. Et ça, en tant que remplaçante, c'est génial parce que je peux vraiment en profiter pour leur faire passer des journées un petit peu différentes sur certains... Enfin, voilà, sur certaines choses.
Mais après, même en tant que titulaire, c'est possible.
Mais oui, voilà, exactement. Là, je dis ça en tant que remplaçante, mais je pense qu'en tant que titulaire, c'est aussi tout à fait possible. Ouais.
Je vais donner un exemple personnel. Hein. Voilà. Mais quand vous me posez cette question, j'ai du mal à répondre parce que je crois que je devais être tellement naturellement non-conformiste que... voilà. Mais par exemple, à mes petits tous, je leur faisais apprendre pas mal de poésie parce que je trouvais qu'il y avait une structure de la phrase et il y avait le problème de la diction, de se présenter, j'allais dire, devant le public. Il y avait la mémorisation. Voilà. Alors, évidemment qu'il y avait certains petits étaient timides, des timidous. Pour cela, qu'est-ce que je faisais quand ils devaient réciter leur poésie? Eh bien, j'avais une pièce attenante à ma classe qui servait pour le matériel. Je faisais sortir l'enfant dans cette pièce, mais je ne refermais pas la porte, je ne claquais pas la poignée. Juste, je la laissais un peu entrebâillée. Et de derrière la porte, il disait sa poésie, et plus il la disait d'une manière audible pour l'ensemble de la classe, plus il était applaudi quand il revenait. Alors, du coup... il se livrait sans hésitation. Ensuite, une fois après, j'ouvrais un peu plus la porte. Après, je lui faisais faire un pas dans la classe. Et puis après, il se présentait devant tout le monde. Voilà. Bon. Voilà. C'est des petits trucs. Ce sont des trucs, quoi, mais il ne faut pas hésiter. Je pense à ce prof de maths qui expliquait le signe plus ou le signe moins, il faisait venir un élève à l'ordre des grands. Quoi. Le signe plus petit que ou plus grand que, il prenait son équerre là, jaune pointu, et il disait, allez, retourne-toi, il lui piquait les fesses, et il disait, toi, c'est le plus fort qui pique l'autre. Quoi. Voilà, c'est le plus grand qui pointe vers le plus petit. Bon, une fois qu'il avait vu ça, bon, ça faisait rire toute la classe, mais ben, bon, on l'enregistrait. Évidemment, ce n'était pas très académique de faire ça. Mais, je m'excuse, mais des fois, il faut se foutre un peu de ce qui est académique. Quoi, hein. Il faut... Voilà. Voilà.
Après, ce qui est difficile, alors je suis désolée, j'ai un bruit de fond un peu bizarre. Ce qui est difficile avec le non-conformisme, c'est que les élèves, en tout cas, moi je suis au collège, et en fait, les élèves sont tellement rentrés dans un système que quand on veut faire des choses différentes, eh ben, ils sont perdus. Alors, je pense que maternelle et peut-être primaire, ça passe, mais après, moi je suis assez surprise de voir comment, justement, quand on fait des choses différentes, bah, au collège, travailler en groupe, ça devient compliqué, alors que moi j'ai une fille qui est en maternelle. Ils font que ça, du travail de groupe, et ils sont super autonomes. Et ça, c'est une réflexion que je me faisais cette année, de me dire, bah, en fait, à la fin de la primaire, début du collège, on leur fait un peu oublier tout ce qu'ils ont vu dans les petites classes pour après bah, les mettre dans des... Non, il faut que ça soit comme ça et pas autrement. Et quand on leur demande de sortir du cadre, et ben, c'est vachement difficile pour eux. Non, moi, je trouve que...
Ah oui, oui,
ils savent plus, ils savent plus faire. Ils sont tout le temps là à nous appeler à chaque question. Madame, j'ai répondu à la question 1, qu'est-ce que je fais? Bah, tu réponds à la question 2, quoi. Et on en est à ce niveau-là, quoi, de leur dire... Allez, non, vas-y, tu peux y arriver tout seul, fais-le. Et voilà, oui, je pense oui, vos oui. expériences, mais je trouve
alors,
que...
Alors, je me demande si ce n'est pas aussi de l'angoisse quand ils font ça. Parce que, ouais. parce qu'on met tellement de pression sur... ah, tu rentres en sixième, ça va être dur, il faut t'adapter et tout. On leur met la pression. Sans, enfin, pas les enseignants, mais les parents.
Les mamies.
Ou les grands-parents.
Oui.
Et alors, ces enfants-là... Je pense qu'il y a une pression qui fait qu'ils ne peuvent pas se livrer et se lâcher en classe. Enfin, il me semble.
Oui, peut-être.
Mais oui. Ça. Et cette pression, il faut la libérer. Voilà, nous enfin, à la maternelle, en primaire, on peut travailler sans pression. Je prends un exemple. Vous savez, les enfants, quand ils écrivent, les petits tout, s'appliquer, c'est tenir le stylo en crispant les doigts, en se crispant les épaules, en tirant la langue, en se penchant sur le cahier. Et voilà. Dans le midi, nous disons, il faut quicher. Voilà. Bon, moi, j'expliquais aux petits à qui j'apprenais à écrire, je dis, on pointe le crayon ou la craie sur le tableau, on décide de faire un mot, on va faire un rond. Quand on le décide, ben on amène le crayon promenade, on tourne, voilà. Et hop. Je dis, est-ce qu'on s'est fatigué? Non. Est-ce que c'est beau? Oui. Bon, ben, je dis, voilà. Hein, on est là, on peut très bien s'appliquer sans se crisper, sans se fatiguer. Mais sinon, je crois que l'éducation, il y a un peu le salut, c'est comme dans certaines religions, le salut par la souffrance. Il faut souffrir. Alors, je ne dis pas, bien sûr, il y a des efforts à faire et être patient et être persévérant. Bien sûr, dans les études, il faut travailler. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sans se crisper. Voilà. Moi, j'étais amené à faire des conférences sur un thème et j'aborde un sujet. Ça s'appelle la théologie de la substitution. Alors, quand j'ai un auditoire de grands, quand je dis, je vais vous expliquer ce que c'est la théologie de la substitution. Mais je leur dis, mais attendez, vous allez voir. Il n'y a pas besoin de se chauffer les méninges. C'est simple comme tout. Le mot est compliqué et vous avoir la notion, vous allez comprendre. Certains comprennent, d'autres ne comprennent pas. Mais, enfin, mais il faut partir de l'élève, dire à l'élève, mais tu vas comprendre. Je suis là pour te l'expliquer, tu vas comprendre. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Il y a une espèce de peur là qu'il faut enlever. Et si on ne l'enlève pas en primaire, en maternelle, eh bien là, on va la retrouver au collège.
Je leur dis que j'ai horreur qu'ils me disent que j'ai rien compris, parce qu'ils ont forcément compris quelque chose.
Et oui, un minimum.
Voilà, madame, j'ai rien compris. Et ça, c'est leur faire comprendre que non, ils comprennent des choses. C'est aussi une bonne part de notre travail.
Et oui.
Comme ça, ça peut arriver des fois dans la vie de ne pas comprendre quelque chose, non?
Non, mais rien compris.
Ah, rien.
Voilà, mais de dire que j'ai rien compris, je suis d'accord qu'ils ne comprennent pas des choses, justement, oui. On prend le temps de leur expliquer, mais de dire j'ai rien compris.
Je n'ai pas bien compris.
Je n'ai pas tout compris.
Ouais. Oui, et puis il y en a une manière de dire j'ai rien compris, de dire à l'enseignant, tu vois, tu es un plouc, tu n'as pas été capable, hein? Moi tu m'expliques, mais alors c'est nul. Voilà.
Non, c'est pas forcément.
Il peut y avoir un peu de ça des fois. Mais enfin bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et puis, je veux dire, on prie pour nos élèves, mais on peut prier aussi pour nous, hein, pour nous aider dans cet art de la pédagogie, parce qu'on a toujours à apprendre. Hein. Voilà. Nous, à la retraite, on a été dans des classes pour voir des collègues. pas pour les inspecter, mais pour dire après, tiens, mais tu vois, tu aurais pu faire aussi ou ça. Mais très souvent, en voyant le collègue, je dis, oh, et dire que ça, j'aurais pu le faire, et je ne l'ai pas fait. Et j'ai passé toute ma carrière un truc aussi simple, je suis passé à côté.
Mais c'est ce que disait Johan tout à l'heure.
Oui, il y en a plein de trucs comme ça. Voilà.
Mais ça, c'est dommage, on n'a pas assez l'occasion tout au long de la carrière d'aller observer les autres. Finalement, on le fait lors de nos stages, mais après, c'est fini pour toute la carrière, alors que ce serait génial de pouvoir se renouveler comme ça en allant observer les autres.
Oui. Échanger les petits trucs, échanger les petites recettes. Toi, tu mets quoi? Tu mets de l'estragon, tu mets du caprica, qu'est-ce que tu mets? Voilà. Oui. Souvent, on est dans les grands concepts pédagogiques, c'est bien, mais il y a aussi plein de petits trucs. Et notre vie, elle est faite de petits trucs.
Sur l'échange avec les autres collègues, des petits trucs. Moi, je suis en prof de français langue étrangère, donc j'enseigne aux adultes le français. Et en fait, je partageais des classes à deux. En fait, on était toujours deux. Ça fonctionnait, ce qui fonctionnait moins bien. Des petits trucs des fois qui peuvent aider parce qu'il y en a qui sont déjà professionnels et d'autres qui viennent juste de commencer.
Oui, c'est ça.
Et oui.
Je tiens à rappeler, moi aussi j'ai un bruit de fond. je rappelle que le but aussi des réseaux, et ça c'est un rêve, mais je pense qu'on peut le faire devenir réalité assez rapidement, ce serait d'avoir plusieurs séances dans l'année sur Zoom, où justement on pourrait avoir ce partage d'expérience et se donner des trucs. Et ça, ce serait quand même assez génial. Comme je le disais au tout début, ce n'était pas enregistré et tout le monde n'était pas là, mais que les réseaux, au départ, c'était un peu un format colloque où en fait, on écoutait quelqu'un qui parlait. Mais on aimerait en fait réorienter ça pour que ce soit un peu plus un vrai réseau, quoi, où en fait, on peut prier les uns pour les autres, on peut vraiment partager des expériences et se donner des trucs et aussi partager, bien sûr, des difficultés. Et ça, c'est vrai, ce serait vraiment super que les réseaux deviennent ça, en fait. Donc, peut-être que ce besoin-là, on pourrait le traduire en acte en disant, genre tous les deux mois, un Zoom sur un sujet ou pas d'ailleurs, mais en gros, on pourrait dire en plein air un peu ce qu'on veut. Et puis, en fait, le but, c'est de se ressourcer.
Mais du coup, alors c'est vrai que si c'était encore plus régulier, ça serait top. Mais je pense que ça doit être mon septième ou huitième journée annuelle à laquelle je participe. Et franchement, à chaque journée, je ressors en me disant « Oh, c'est génial, j'ai eu des trucs justement auxquels je n'avais pas pensé. Je vais essayer de mettre ça en œuvre dans ma classe. » Et parfois, en fait, ça pallie les manques de l'éducation nationale parce que du coup, il y a beaucoup de choses que j'ai entendues pendant la journée du réseau et que je n'avais jamais entendues en formation initiale lorsque j'étais stagiaire, ou même dans les stages qu'on continue à avoir régulièrement. Et du coup, voilà, c'est un peu dommage qu'au niveau institutionnel, on l'ait pas forcément, mais c'est super que du coup, au niveau du GPU, on puisse avoir ça, avec en plus la dimension de foi, la dimension chrétienne, que là, pour le coup, on n'a pas du tout avec l'éducation nationale. Mais il y a peut-être 4 ans, on avait eu un inspecteur général. Et ça avait été exceptionnel et on était tous ressortis en se disant « Mais pourquoi il a fallu qu'on attende 10 ans pour entendre tout ça ?» Parce que c'était exceptionnel. Donc voilà, merci les réseaux.
Est-ce qu'il y a possibilité de créer un groupe type Facebook pour qu'éventuellement, alors au-delà de peut-être rencontre une fois tous les deux mois, s'il y a un forum ou quelqu'un, n'importe qui pourrait dire ben voilà, je me retrouve face à telle problématique dans ma classe, quel conseil vous auriez? Ça pourrait être intéressant aussi.
Ce que le réseau santé fait, a mis en place genre hier soir, parce qu'en fait la question se pose dans beaucoup de réseaux. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de créer un groupe WhatsApp, donc Après, le but un peu, c'est de mettre un peu tout ce qu'on connaît de la branche dans le groupe WhatsApp. Après, ils sortent s'ils veulent, il n'y a pas de problème. Mais du coup, avec ce groupe WhatsApp, justement, de partager des ressources ou de partager des questionnements. Et comme ça, en fait, il y a le groupe WhatsApp. Et puis, tous les deux mois, il y a un Zoom. Soit de partager prière tout simple, soit avec un sujet, donc c'est-à-dire avec quand même un ou deux intervenants qui font une petite intro, genre d'un quart d'heure, 20 minutes sur un sujet, et après discussion par Zoom. Et après, il y a le WhatsApp qui prend le relais à chaque fois entre les trucs. Du coup, ça devient un vrai réseau, quoi. Je ne sais pas si vous avez des idées plus innovantes, mais c'est vrai qu'après un groupe WhatsApp, vu qu'en fait beaucoup de personnes utilisent ce moyen, ça fonctionne bien. Et alors moi, on a des pouvoirs magiques au GBU. En fait, on a une base de données, donc avec toutes les personnes qui travaillent dans une branche. Donc ça veut dire qu'au niveau des numéros de téléphone, moi je peux rentrer un certain nombre, enfin plusieurs centaines de numéros de téléphone d'enseignants, par exemple, sans trop leur demander leur avis. Mais après, ils peuvent sortir s'ils veulent. Et puis du coup, on peut créer un groupe WhatsApp assez rapidement, quoi.
Et du coup, donc, c'est des grands groupes. C'est vraiment un groupe par réseau, ou est-ce qu'il y a des sous-groupes aussi? Parce que moi, je sais que personnellement, il y a des choses que j'échangerai dans des groupes un peu réduits, mais que je n'échangerai pas forcément dans un grand groupe où voilà, je n'ai pas de visibilité sur qui est là et je ne connais pas tout le monde, quoi.
Oui, ouais, c'est là où il faudrait réfléchir justement à être un peu à cibler un peu plus, sachant que voilà, je ne suis pas sûr que même dans un grand groupe WhatsApp, il y ait beaucoup de monde qui disent et qui interviennent. Mais après, c'est vrai qu'il faudrait cibler un peu plus. Quand tu dis ciblage, c'est plutôt genre primaire, collège, lycée, un truc comme ça, ou tu peux ouvrir autre chose?
Non, pas forcément, parce que du coup, je trouve que l'échange interdegré, comme on l'a eu, comme on l'a aujourd'hui, est vraiment super enrichissant. Après, je ne sais pas, par région ou par... je ne sais pas sur quelle base on pourrait cibler un peu plus, mais voilà. Mais en tout cas, pas forcément par le degré, parce que je pense qu'on perdrait aussi en richesse de petits trucs. Et je pense que le secondaire, on a beaucoup aussi à apprendre du primaire, où la relation est peut-être est différente avec les élèves aussi, le côté capter l'attention, théâtralisation, des choses comme ça. Nous, on est peut-être moins formés à ça en secondaire, et c'est des choses qui sont super à mettre en œuvre.
Pour moi aussi, la problématique, si on a un groupe justement de 80 personnes, etc., c'est y a une question qui se pose, il y a 50 personnes qui vont répondre à cette question-là. Donc, on va commencer à être... les notifications vont se multiplier, et comme on a aussi des groupes de WhatsApp avec nos familles, parfois aussi, moi, je les ai avec les collègues, etc., je pense que ça va être beaucoup trop d'informations en même temps, et au bout d'un moment, en fait, on va perdre de visibilité, et on ne va plus vouloir en fait aller sur ces groupes-là parce qu'il y a trop d'informations. Et pour moi, faire des groupes un peu plus restreints, ça nous permet de connaître aussi les personnes du groupe, et de mieux cibler les questions et d'avoir un partage plus cohérent que de se perdre dans des milliers de messages et après ne plus vouloir.
En revanche, on pourrait avoir un WhatsApp où uniquement des administrateurs pourraient communiquer des informations. Moi, j'ai ça pour une colo dans laquelle je sers régulièrement. Il n'y a que les administrateurs qui peuvent poster, et ça permet qu'on reçoive des informations régulièrement. Mais effectivement, comme disait Carole, éviter qu'il y ait 150 réponses sur chaque message, c'est intéressant aussi.
Mais du coup, il n'y a plus l'effet échange s'il n'y a que quelques personnes qui peuvent poster.
Oui, mais alors l'échange, on pourrait l'organiser via une autre plateforme. Moi, c'est vrai que j'avoue que je préfère la plateforme d'échange où je fais la démarche de me connecter pour aller récupérer du contenu, plutôt que de me retrouver avec 200 messages, comme vous tous, je pense qu'on a déjà un certain nombre de groupes WhatsApp sur lesquels on a déjà beaucoup d'échanges, beaucoup de messages.
Je prends des notes. un truc auquel j'ai pensé pendant la méditation. C'est un passage que tu n'as pas cité, Robert, mais c'est quand les personnes sont impressionnées par l'enseignement de Jésus parce qu'il n'enseigne pas comme les autres. Parce que ce n'est pas un enseignant comme les autres. Il n'enseigne pas comme les pharisiens, comme les docteurs de la loi. Mmh. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé. Parce que finalement, on peut avoir un métier, être enseignant. Mais Jésus, en fait, là où il faisait la différence, c'est qu'il était vraiment passionné. Il y avait un truc en plus. Et je pense qu'il n'était pas comme les autres parce que justement, il savait de quoi il parlait. Il était passionné par ce qu'il faisait. Et en plus, il avait une vie cohérente avec ce qu'il disait. Et ça touchait naturellement les personnes. Et c'est vrai que je pense que c'est un sujet de prière qu'on peut tous avoir. C'est prier pour que il y a quelque chose qui transparaisse au-delà des mots, au-delà du verbal, que vraiment en fait les élèves ou en tout cas l'auditoire soit captivé et soit pris devant le discours, devant le comportement de la personne qui parle devant, quoi.
Oui. Alors moi, je vais parler d'expérience, bien sûr. Quelque chose qui est loin, loin, loin devant vous. Mais quand je suis partie à la retraite, il y a une mère d'élèves, c'était d'un jeune autiste, qui est venue me voir et qui m'a dit « Bon, maintenant que vous ne travaillez plus, dites-moi ce qui vous fait avancer. » Quand même. Et, bon, on a pu nous entretenir avec elle pendant plusieurs heures, enfin, pour lui expliquer notre foi. Mais donc, il y avait quelque chose qui était passé.
Oui, oui. Je crois que c'est valable pour chacun de vous, là. Que vous le sachiez ou non, que vous le ressentiez ou non, votre foi dans le Seigneur, il y a quelque chose qui transparaît. Les gens, confusément, perçoivent quelque chose, c'est sûr, c'est sûr. Alors, toujours cheminer avec le Seigneur, bien sûr, mais déjà, soyez rassurés. Ce n'est pas quelque chose qui vous manque. C'est quelque chose qui peut s'approfondir, tout ça. Mais c'est pas, je suis sûr qu'à aucun de vous, là, que j'ai sous l'écran, ça vous manque, ça. Parce que vous avez le Seigneur dans votre vie. Eh bien, ça, automatiquement, vous pouvez être sûr qu'il y a quelque chose qui en transparaît. Voilà, c'est sûr.
Je voulais ajouter par rapport justement l'exemple merveilleux que est Jésus. Souvent, il parle aussi avec des paraboles, en utilisant justement des images tout à fait compréhensibles par l'auditoire. Et que du coup, en gros, ça serait, c'est une bonne idée aussi de faire la même chose avec nos élèves, de comprendre un petit peu qu'est-ce qui aussi les intéresse, de voir leur... les choses qui sont plus actuelles et pas forcément rester sur nous, ce qui nous intéresse, pour pouvoir justement partir de ça et construire nos leçons à partir de ce qu'ils aiment. Comme ça, ça les capte plus rapidement. Mmh. Alors moi, de toute façon, c'est ça. On me l'avait aussi dit dans ma formation, donc je trouve ça encore plus beau de me dire que Jésus le faisait déjà il y a bien longtemps. Et parfois je culpabilise du fait que oui, mais cette leçon là j'ai pas trouvé de point d'accroche ou j'ai pas forcément fait comme les élèves voudraient ou moi-même je suis en mode j'ai plus le temps, j'en ai marre et j'ai pas forcément envie de le faire parfois oui, voilà, j'étais un peu dépassée parce que je me dis oui, j'aurais dû faire ça pour mieux les captiver ou etc. Et surtout, quand il y a eu une journée de réseau il y a 2 ans, un des intervenants avait dit que la tâche qu'on a à faire, c'est une tâche compliquée et qu'effectivement, on n'a pas que au niveau des enseignements, mais aussi des fois, il faut éduquer aussi les élèves, etc. et qu'on peut se sentir dépassé par tout ce qu'on a à faire, mais qu'il faut en fait prendre du recul par rapport à tout ça et nous déculpabiliser. Parce que oui, en fait, on a une charge beaucoup trop importante à faire et en fait, on ne peut pas tout faire. Mais il faut justement se dire que nous, on fait à notre hauteur aussi ce qu'on peut faire, mais que faut pas justement se dire « Ah, j'aurais dû faire ça tout le temps », parce qu'en fait, ça, on va culpabiliser tout le temps et puis prendre plaisir, en fait, et se mettre un objectif beaucoup trop haut, parce qu'en fait, Jésus, il est parfait. Et donc, du coup, lui, tout ce qu'il faisait, en fait, il le faisait super bien. Et donc, si on prend en fait comme exemple Jésus en se disant il faut faire ça, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il faut faire, on peut nous-mêmes, en fait, se mettre un poids sur nos épaules en disant il faut être comme Jésus, donc il faut pouvoir faire tout ça. Mais c'est pas par nos propres forces, en fait, qu'on peut aussi avancer. Et que c'est un exemple, mais nous, on veut tendre vers cet exemple et on doit vraiment se ressourcer en Dieu pour pas culpabiliser et se sentir en fait chargé, mais qu'il faut se décharger sur lui et demander son aide pour que ça fonctionne mieux, quoi. Voilà.
Et je pense que ça fait du bien de réentendre que oui, on a justement le Seigneur en nous qui peut faire la différence, parce que moi, j'avais eu la possibilité d'enseigner dans une école chrétienne et je m'étais dit, en fait, je veux aller dans l'éducation nationale justement pour apporter quelque chose de différent. Mais ensuite, quand on débute, on voit toutes les erreurs qu'on fait et on se dit, mais en fait, il y a des collègues, donc pas du tout chrétiens, qui font ça, mais tellement mieux que nous. Et en fait, j'étais frustrée à un moment de me dire, mais qu'est-ce que moi, vraiment, j'apporte de différent, en fait. Enfin, j'ai l'impression de faire les choses beaucoup moins bien parce que justement, enfin, voilà, je fais plein d'erreurs. Et après, je me suis dit, ben non, enfin, parfois, on n'en a pas conscience, en fait, aussi, de ce qu'on apporte de différent parce qu'on est chrétien. Mais voilà, il faut se le rappeler et se dire, même si on n'en a pas conscience, eh ben, ouais, on apporte quand même quelque chose de différent et on fait quand même des erreurs de débutant aussi, ou comme ça, ou même plus tard. Mais ouais, c'est bon de se le rappeler, parce que moi, j'étais presque frustrée de me dire, mais en fait, je fais pas du tout mieux, je fais pas du tout... Enfin voilà, mais c'est quelque chose qui est plus... je pense aussi dans notre attitude et dans... Ouais, je sais pas. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est parfois frustrant quand même de se dire est-ce que vraiment j'apporte quelque chose de différent en tant que chrétien, mais je le crois vraiment. Je le crois vraiment.
En tout cas, Robert, on vient de te prouver que tu n'es pas dépassé et que ce que tu as dit était intéressant. Voilà.
Merci de me rassurer.
Voilà.
Merci.
Ce qu'on pourrait faire, c'est prier. Voilà, c'est ce genre de proposition en fait où personne n'ose dire non de toute façon. Donc, on va aussi prier cet après-midi, hein, mais c'est vrai que je pense qu'on peut déjà prier maintenant pour répondre, déjà commencer un peu à répondre au Seigneur par rapport à ce qu'il nous a dit au travers de Robert et de la Bible.
Et de la Bible, oui, oui.
Voilà, ça. Et puis voilà, et puis en fait on n'est pas du tout obligé d'aller jusqu'à midi et demi, hein, en fait on peut voilà, comme ça on aura une pause un peu plus grande, il n'y aura pas de problème, on est assez détendu au niveau des horaires du coup.
Oui.
Voilà, donc sentez-vous libre de prier.
Seigneur, moi je veux déjà te remercier pour tout ce groupe d'enseignants, en te disant que j'aurais aimé connaître ce groupe avant de partir à la retraite, mais c'est chose faite. Alors Seigneur, je te prie de continuer à les fortifier dans ta parole. Continue, s'il te plaît, à les bénir et à leur donner tout ce dont ils ont besoin face à leur classe. Seigneur, c'est toi qui vas les former, qui vas les fortifier et qui va faire en sorte que quelque chose de ton royaume passe au travers d'eux. Merci Seigneur pour tout ce groupe et merci pour ce qu'il représente, Seigneur. Amen.
Amen, amen. Et Seigneur, nous sommes bien conscients des grandes difficultés qui se présentent dans la société actuelle et pour enseigner, ce n'est pas facile. Et tu nous envoies aussi comme des brebis au milieu des loups. Seigneur, c'est pas les loups qui viennent au milieu des brebis, c'est les brebis qui viennent au milieu des loups, c'est encore plus dangereux. Mais Seigneur, tu nous dis aussi que tu nous laisses taper, que tu ne nous la donnes pas comme le monde la donne, alors qu'on n'a pas à se troubler. Et Seigneur, nous te remercions parce que pour tous nos frères, nos sœurs, nos amis enseignants qui sont encore sur le terrain, eh bien, tu les rejoins, tu es là, eux, toi aussi sur le terrain. Nous voulons nous rappeler que tu es la parole incarnée, tu t'es incarné dans la chair, mais tu t'incarnes aussi sur le terrain et même sur le terrain de l'école, de l'enseignement. Et c'est toi qui accompagne tous nos collègues aujourd'hui. Tu n'en délaisses aucun. Tu n'es pas élitiste vis-à-vis d'eux. Tu les accompagnes chacun par son nom. Seigneur, tu accompagnes Lydie, tu accompagnes Marie-Edith, tu accompagnes Carole, tu accompagnes Lauricia, tu accompagnes Sophie, tu accompagnes Lydia, tu accompagnes Romy, tu accompagnes Yoam, tu accompagnes Joël et puis tous les autres qui nous écoutent ou qui nous écouteront. Tu les accompagnes, c'est une réalité, Seigneur. C'est ta parole qui le dit. Je ne vous laisserai pas, tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Ta parole le dit, que nous le sentions, nous ne le sentions pas. Nous le savons, Seigneur, et nous t'en remercions de tout notre cœur. Amen.
Amen.
Seigneur, merci pour tous ces conseils si précieux de Robert. Merci parce que ça nous rappelle que, oui, on est en posture d'enseignant, mais en fait, on a le plus grand des enseignants. C'est toi, Seigneur. C'est toi qui nous enseignes. Et aide-nous toujours à nous retourner vers toi pour nous ressourcer en tant qu'enseignant, pour revenir à tes conseils à toi, Seigneur, à ce que toi, tu as à nous transmettre en tant que l'enseignant parfait. Et ouais, on veut te ressembler, Seigneur. Amen.
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 Oui, Seigneur, je veux te remercier vraiment pour ce privilège que tu nous donnes aujourd'hui de nous retrouver. Nous devions nous retrouver en présence et nous voir tous, mais malgré les aléas sanitaires, tu nous permets quand même de passer ce temps ensemble par Internet. Et vraiment, nous voulons te remercier pour cela. Nous voulons te remercier pour tout ce que tu nous as rappelé ce matin dans ta parole au travers de Robert. Nous voulons te remercier pour ce que tu nous rappelleras cet après-midi aussi. Et nous voulons te remercier parce que tu nous montres que nous ne sommes pas seuls dans notre enseignement et dans notre foi. Nous sommes entourés de frères et sœurs. Nous sommes entourés de ta présence aussi au quotidien. Et merci parce que grâce à tout ça, tu nous fortifies dans notre foi et dans notre métier de professeur. Et Seigneur, nous voulons te prier que tu nous accompagnes dans nos classes, que tu nous aides à nous rappeler au quotidien de toutes ces choses qu'on a entendues ce matin. On sait que quand on est face à une classe, on a tendance à oublier tout ça et on a tendance à oublier de prier, on a tendance à oublier que tu es avec nous, mais on te prie vraiment que tu nous le rappelles au quotidien et que tu nous aides à le mettre en œuvre au quotidien. Et nous voulons te remercier aussi parce que, comme nous l'a rappelé Lydia, nous ne sommes pas parfaits et nous n'arriverons pas à être comme toi par nos propres forces, mais tu es là pour pallier nos faiblesses, tu es là pour agir aussi au travers de nos faiblesses et nous voulons te demander de nous aider à porter toutes ces choses et de nous aider à agir dans nos faiblesses, Seigneur. Amen. Oui,
là où deux ou trois sont réunis, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous sommes même plus que deux ou trois ce matin, Seigneur. Et donc, a fortiori, tu es au milieu de nous. Et cette parole, là où deux ou trois sont réunis, je suis au milieu d'eux, elle ne dit rien de la manière, de la modalité de la réunion. Nous avons tendance à la voir physique, cette réunion. Et là, pourtant, ce matin, ça n'est pas le cas. Elle est juste virtuelle. Et nous avons donc à réaliser ensemble que cette parole, elle est vraie, même virtuelle, et à réaliser ensemble que la technique permet de réaliser cette parole qui a été dite et dont nous vivons la vérité ce matin, là où deux ou trois sont réunis, je suis au milieu d'eux. Merci Seigneur pour cette présence silencieuse et bienfaisante.
Seigneur, je te remercie parce que tous les ans, lors de chaque réseau, eh bien, tu nous fais du bien. Et je veux te bénir parce que dans ta parole, par ta parole, tu nous ressources. Et par les échanges que nous pouvons avoir les uns avec les autres, eh bien, tu nous ressources aussi. Et nous te remercions de cette occasion que nous pouvons avoir d'échanger. Et c'est vraiment... C'est vraiment merveilleux à chaque fois de se dire que voilà, on vient à ce genre de réunion, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Mais en fait, à chaque fois, la magie opère, à chaque fois, tu es là, comme l'a dit Joël. Tu es au milieu de nous et tu nous fais du bien. Et nous voulons vraiment te remercier pour cela et te remettre notre avenir professionnel, que Seigneur, tu nous aides à toujours progresser dans notre pratique, à toujours progresser dans notre foi, à te faire confiance, à te laisser agir. Et Seigneur, tu vois à quel point nous avons parfois du mal à te laisser faire, parce que nous voulons souvent prendre la main, même des fois pour désespérer, mais nous voulons prendre la main. Et Seigneur, nous voulons avant tout te prier pour que eh bien, tu nous laisses te laisser faire. Seigneur, ce n'est pas notre monde, c'est ton monde, ce ne sont pas nos élèves, ce sont tes élèves. Que Seigneur, eh bien, tu puisses vraiment briller au travers de nous. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen.
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 Johan ?
Oui. Oui.
Puisque tu as indiqué qu'en principe, le temps pouvait aller jusqu'à 12h30, est-ce que tu m'autorises éventuellement à me présenter un tout petit peu et à faire 3 ou 4 remarques fondées sur ce que je viens d'entendre ?
Oui, sauf si certaines personnes veulent aller manger tout de suite. Enfin, bon, voilà, après, je dirais pourquoi pas, ça peut être intéressant. Après, si certaines personnes, on les voit dans leur cuisine et tout ça, en fait, c'est aussi possible. Hein, voilà, ce qui est bien avec Zoom, c'est qu'on peut faire plusieurs choses à la fois. Voilà. Donc, ça ne demandera pas trop d'interaction, en fait, il faudra surtout écouter. Donc, c'est pour ça que je dis ça.
Tu as évoqué, Johan, le partage possible à travers les réseaux, mais tu as surtout évoqué un partage, si j'ai bien compris, intra-réseau.
Oui.
Je voudrais juste dire que par ma présence, j'ai l'ambition, il faut voir si elle est justifiée, mais j'ai en tout cas la foi que la transversalité et donc le partage peut s'exercer aussi entre les réseaux différents.
Béni sois-tu, Joël.
De fait, donc, ma vocation, si l'on peut dire naturelle, est d'être dans le réseau santé, puisque, pour ceux et celles qui ne l'ont pas entendu, dans une autre vie, alors c'est pas très chrétien de parler comme ça, mais dans une autre vie, j'ai été médecin. Et donc, bien sûr, c'est mon lieu naturel, le réseau santé, mais, et c'est la première remarque que je voudrais faire, un médecin, surtout quand il est de service public et d'hôpital, et là je vous rejoins, j'ai bien été attentif au fait que vous êtes des professionnels de service public, on lui demande 3 et même 4 missions. La mission de chercher, d'être un chercheur, je vais passer dessus. Mais les 3 autres, je voudrais y insister un peu. Celle de soigner, bien sûr, comme médecin, mais aussi celle de diriger, surtout quand le médecin en question est chef d'un service. Et enfin, et c'est là que la transversalité joue avec votre groupe, celle d'enseigner, puisque un docteur doit enseigner à la personne qu'il soigne et enseigner à l'équipe qu'il dirige. Donc, je me sens tout à fait bien avec vous ce matin à travers cette activité d'enseignement. Et là, je voudrais terminer cette remarque en rappelant que le burn-out, l'épuisement professionnel qui est assez à la mode, qui a été nommé comme ça par un certain Freudenberger, mais peu importe le nom, dans les années 70. Cet homme qui l'a nommé comme ça, il avait très vite remarqué qu'il y a 3 métiers et 3 activités qui sont des activités sur et avec l'humain, qui sont à risque particulier d'épuisement professionnel. Et ces 3 activités, c'est enseigner, soigner et diriger. Et en un sens donc, en tant que praticien hospitalier, j'ai cumulé ces 3 risques. Mais celui en qui je crois m'en a souvent protégé. J'ai quand même eu à vivre des périodes où j'ai été épuisé. La deuxième remarque que je voudrais faire après vous avoir écouté, elle est ancrée, là, en fait, dans le titre de la journée que vous avez rappelé. Serviteur du service public. Donc, le mot-clé de la remarque, c'est service. Et je voudrais juste vous dire, Johan le sait, j'aime bien l'histoire et la racine des mots. En tant que médecin, j'ai à mettre en œuvre des thérapeutiques. Et puis, ceux que je soigne aiment bien aussi, en dehors des thérapeutiques qu'ils consentent éventuellement à suivre et à prendre, ce n'est pas toujours gagné, ils utilisent volontiers des thérapies, et des thérapies qui sont donc éventuellement non conventionnelles. Ben, Ce que je veux simplement dire là, c'est que thérapeutique aussi bien que thérapie, ça a une racine grecque qui est thérapein, et thérapein, ça veut dire servir. Et pour les Grecs et dans les œuvres grecques, c'est aussi bien servir les hommes que les dieux. Et pour Homère, d'ailleurs, le thérapon, c'était l'écuyer, donc le serviteur du cavalier ou du soldat. Et puis service, on le retrouve évidemment dans ministère, et vous avez évoqué les questions qui vous préoccupent par rapport à vos administrations. On sait bien que l'administration en question a peut-être tendance à se prendre pour une maîtresse plutôt que comme une servante, mais ça, je peux vous dire qu'en tant que praticien hospitalier, je vis et j'ai vécu aussi les mêmes choses. Et puis, puisqu'il s'agit de liens entre le service et la foi, finalement, il y a un autre mot aussi qui relie complètement les deux, c'est tout simplement le mot liturgie. Le mot liturgie qui est comme un lego avec le mot laïos qu'on retrouve dans la laïcité et qui fait référence au peuple et donc au public. Et le urgie de liturgie qui fait référence au travail, à l'œuvre et donc au service. Et donc la liturgie comme service public, j'aime bien m'en souvenir à un moment où, à cause de la pandémie Covid, les pouvoirs publics voudraient étouffer ou limiter beaucoup le service public que représente la liturgie, c'est-à-dire l'expression d'une communauté religieuse. Et je suis désolé, mais dans mon pays laïque, la liberté est promue et totale dans l'espace public, non seulement d'exhiber des caricatures, mais d'avoir une liturgie. Ça, c'était la deuxième remarque. La troisième remarque, je la ferai autour des mots-clés de communiquer et de pression. Je vous ai entendu parler de la pression que subit un élève qui veut trop bien faire et qui finalement se retrouve coincé. Et puis, plus récemment, l'une d'entre vous parlait de la pression qu'elle se donne en mettant la barre à la hauteur de l'exemple que donne Jésus. Et puis, évidemment, de ne pas y arriver, ça crée une sorte de pression qui peut être gênante, voire paralysante. Et je le mets en lien avec la communication, puisque finalement, vous avez évidemment un métier dont la qualité première, et Robert l'a fort bien rappelé et réalisé, c'est la communication. Je ne suis pas non plus, moi, je n'ai pas été formé à la communication et pourtant j'ai dû très vite voir dans mon service, dans mon métier, que si je ne savais pas communiquer, je ne saurais pas soigner. Et un livre qui m'a bien aidé pour avancer, c'est un livre écrit par un Anglais et traduit qui s'appelle tout simplement « Soigner sa communication ». Et je voudrais tirer de ce livre une illustration. C'est une courbe en cloche qui traduit un fait qui est très humain. Je vais expliquer. Il concerne la vue, l'ouïe et la psychologie, la pression psychologique. C'est pour ça que je l'évoque là. La vue, un peu de lumière, on voit un peu. Pas du tout de lumière, on voit rien. Un peu plus de lumière, on voit encore mieux. Encore plus de lumière, c'est tellement intense que ça finit par éblouir. Et ça, c'est le sommet de la courbe en cloche, c'est la bascule où, au lieu d'augmenter la qualité de la vision, ça la fait perdre. Quand on est ébloui, on ne voit plus rien. La même chose avec l'audition. Pas de son, on n'entend rien, puisqu'il n'y a rien à entendre. Un peu de son, on entend un peu plus, on entend un peu plus. Beaucoup plus de son, rêve parti, les tympans pètent, on n'entend plus rien. La courbe en cloche, c'est la même. Il y a une bascule qui fait que, finalement, quand l'intensité du son devient trop forte, on sature et on ne peut plus entendre. Troisième et dernière chose, l'anxiété. Un peu d'anxiété, et ça, vous, enseignant, vous le savez mieux que quiconque, mais sans être enseignant, en passant les examens, un peu d'anxiété, on rassemble ses ressources et on va être au top et donner la meilleure qualité quand on sera interrogé. Mais si cette anxiété s'accroît trop, eh bien là aussi, il se fait une bascule de la même manière. L'anxiété devient paralysante. Et il me semble, j'ai pensé à ça quand je vous ai entendu parler d'élèves qui avaient trop de pression ou d'enseignants qui avaient trop de pression. C'est finalement un fait éminemment humain. Et puis le dernier petit point, ben, c'est pour la conscience. L'une d'entre vous a dit... a parlé de la conscience de bien faire, la conscience de réaliser un service en toute conscience. J'ai même entendu que quelquefois, on peut être amené à faire des choses sans se rendre compte, donc sans avoir conscience de l'impact qu'elle produit, de l'effet qu'elle a. Et je voulais, pour finir, me permettre de compléter la série de références de Robert pour ajouter celle de Matthieu 25, quand celui qui juge les nations et les peuples, mais on connaît très bien ça, les uns à sa droite, les autres à sa gauche, et puis il leur dit « Je vous félicite parce que vous avez donné un verre d'eau à celui qui avait soif, etc. » Et ce qui me marque et ce que je veux pointer là, c'est juste la réaction de ces gens-là. C'est « Mais quand est-ce que nous avons fait ça ?» Et ça pointe une absence de conscience de l'impact et de la signification des choix qu'on peut faire alors qu'on essaye de faire son travail, donc de rendre service en conscience. C'est un paradoxe. On fait ça en conscience et on n'en a pas forcément conscience au regard de celui dans lequel on croit.
Merci beaucoup, Joël.
Et merci pour tout ce que j'ai entendu ce matin, qui m'inspire.
Alors, Joël est spécialiste de ce genre d'intervention lumineuse. Donc, c'est bien parce que...
C'est ce qu'il faut.
Voilà ça. Vous pouvez l'entendre donc au réseau doctorant, au réseau santé. C'est ça qui est bien. Donc vous pouvez toujours aller sur le site ami.gbu.fr sur les ressources. Vous pouvez des fois entendre Joël aussi pour ce genre d'intervention qui résume. Un petit côté aussi Alain Rey, un peu petit Robert, étymologie. Voilà, c'est vraiment bien. Je pense que je vais t'embaucher, Joël.
Il nous a quittés, Alain Rey, récemment.
Oui, c'est pour ça que je disais, je faisais référence à Alain Rey, parce qu'il est mort il y a 3-4 jours, ou un truc comme ça. Je reviendrai tout à l'heure, je vous présenterai les réseaux à 14h, et du coup, je reviendrai sur ce que Joël a dit, c'était que, justement, en fait, les réseaux ne sont pas cloisonnés, donc en fait, vous pouvez vraiment participer à tous les autres réseaux. Moi je participe à tous les réseaux et je comprends tout, enfin presque tout à chaque fois, et donc vraiment ça veut dire que tout est vraiment accessible et tout est vraiment très très riche, donc vous pouvez vraiment participer à tous ces réseaux. Et puis un truc qu'on est en train de développer, ce sont des réseaux régionaux où en fait finalement il y a un sujet et c'est justement interdisciplinaire, c'est-à-dire que les intervenants qui répondent à la question posée viennent de toutes sortes de branches, donc ça vraiment c'est tout à fait interdisciplinaire. Il y en a un la semaine prochaine qui devait se tenir à Toulouse, donc ça va être des intervenants toulousains, mais maintenant c'est sur Zoom, donc en fait c'est carrément national avec des intervenants toulousains. Donc vous pouvez aller sur justement le site ami.gbu.fr pour voir, vous pouvez vous inscrire à ce réseau, mais ça vous montre aussi comment on peut traiter d'une question avec l'interdisciplinarité, ce qui à mon avis est beaucoup plus riche, encore plus riche on va dire que de se limiter à une seule discipline. Et donc voilà, c'est vraiment pour appuyer sur ce que Joël a dit en premier, hein, c'est que c'est super d'un peu écouter tout le monde et puis de voir en fait la richesse qu'on peut tirer de tout cela. Mais je le redirai tout à l'heure, même si là je viens de le faire. Je pense que ça s'appelle une prétérition, un truc comme ça. Je pense que c'est une figure de style, ça s'appelait comme ça. Voilà. Il est midi 20. Je vous donne rendez-vous à 14h pour la suite. Et d'ici là, bah, bon appétit.
Merci.
Merci.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Mmh.